tous. Donc je suis heureux de vous voir ce matin, un peu stressé, hein, ça se voit, je vois. D'habitude, je fais pas ça, je fais plutôt les chants, donc un peu stressé, surtout par rapport à bien dire les choses, et pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai à dire, mais c'est surtout qu'il y ait quelque chose qui reste au fond de vos cœurs, c'est surtout ça qui est important. Alors juste pour le titre, ne pas se tromper deux fois, et pas deux avec le nombre deux, mais deux fois, F-O-I. On a tous vécu, pour beaucoup en tout cas, ici, des moments où nous avons compris des choses, et compris des choses de Dieu qui nous a amené à une certitude. Pour la plupart d'entre nous, on a compris et acté comme certitude que Dieu existait. Ça, c'est la base. Si on ne croit pas que Jésus ou Dieu existe, on n'a pas encore fait un premier pas. On a fait un premier pas pour la plupart d'entre nous. Puis, on a eu besoin de se réconcilier avec ce Dieu qu'on avait découvert. Et cette réconciliation nous a aussi été faite comme une certitude. On a été sûr qu'il fallait se réconcilier avec Dieu. Et on s'est tourné vers notre Dieu, vers Jésus. Et là encore, une autre certitude, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, a accompli un seul acte, qui nous a donné la position à nous d'être des justifiés. On est des justifiés. Et ça, c'est devenu une certitude dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Et si vous ne l'avez pas encore, alors cherchez cette certitude. Et c'est vrai que des fois, on peut se poser la question, est-ce que je suis sauvé ? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était ma question, est-ce que je suis sauvé ? J'avais tout entendu, parce que j'ai grandi sur les bancs là, de l'église, et est-ce que je suis sauvé ? Et c'était ma question, je sais plein de choses, mais est-ce que je suis sauvé ? Et un jour, ça a fait un impact dans mon cœur, et j'ai été persuadé d'être sauvé. Puis, pour beaucoup aussi, une fois que ça a été fait, on a une autre certitude, c'est la certitude qu'on verra Jésus un jour dans le ciel. Est-ce que vous avez cette certitude ? Moi, c'est une certitude que j'ai. Et en tout cas, donc c'est tous ces éléments-là, et à chaque fois qu'il y a eu une certitude, est intervenue une chose qu'aujourd'hui, on entend des fois un peu galvauder, c'est la foi. À chaque fois, à chaque pas, à chaque fois qu'on a fait un pas avec Dieu, c'est un pas de foi. Donc de la connaissance de la réalité de Dieu, de la connaissance de notre péché, de la connaissance de l'action de Jésus, et du fait d'être sauvé, tout ça, c'est des éléments de foi. Et du coup, la question pour moi ce matin, c'est la foi, ne pas se tromper de foi. Parce que il y a un texte dans Luc, au chapitre 18, au verset 7. Alors c'est le moment où Jésus... raconte une parabole. Et cette parabole, c'est la parabole du eugénique. Le eugénique à qui une personne vient demander la justice. Et cette dame, elle insiste. Et le juge unique, il finit par dire, bon allez, c'est bon, puisque tu demandes, puisque tu me casses la tête, en gros, je vais te faire justice. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le texte qui vient après, justement. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors ça m'a tapé là dans le cœur, moi, en tout cas. Juste la dernière phrase. Trouvera-t-il la foi sur cette terre? Et je me suis dit, oui, il trouvera sans doute la foi. En tout cas, en ce moment, sur la terre, il y a plein de gens qui ont de la foi. Mais c'est de l'imitation, moi, je trouve. Ça ressemble à de l'imitation de la foi. Quand on regarde autour de nous, tous les gens vous dites, moi je crois. En français, encore un peu moins, parce que les gens sont peu croyants. Alors, ils vont pas vous dire qu'ils croient, hein, ou du moins pas en Dieu. Et ils croient en autre chose, mais pas en Dieu. Ils croient en l'argent, ils croient en quelque chose, ou croient en l'homme. En fait, en France, on croit en l'homme. Et dans d'autres pays, par contre, on croit en Dieu, mais on s'aperçoit que ça peut être une imitation. Et je me suis dit, moi, est-ce que je peux pas aussi, des fois, peut-être me tromper? Est-ce que je peux me tromper? Alors, je me suis dit, mais comment savoir que je me trompe pas? Enfin, je me trompe pas. Je crois. Non. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vais essayer de vous donner quelques points de réflexion qui vont vous permettre de peut-être soit vous rassurer, soit de consolider votre façon de voir la foi. En tout cas. La première chose pour la foi, la foi doit prendre racine dans la parole de Dieu. On peut des fois juste croire parce que monsieur un tel, ou monsieur le pasteur un tel, ou le grand gourou de je ne sais quoi, a dit quelque chose de bien, qui paraît tout à fait plausible et bien, et qui a tendance à dire ben ouais, ça a l'air sympa ce qu'il dit, ça a l'air pas mal en fait. C'est très intéressant ce qu'il dit. Et on s'aperçoit que on peut, et l'homme en général, peut s'accrocher à la parole de quelqu'un qui viendrait, qu'il estime être au-dessus de lui. Vous voyez, si le patron a dit ça, ça doit être vrai. Hein, ou si le chef a dit ça, ça doit être vrai. Et ainsi de suite. Et moi, je crois que la première chose qui est importante, c'est que notre foi doit venir de la parole de Dieu. Elle ne doit pas se baser sur autre chose, même pas sur que ce que dit le prédicateur là, mais elle doit s'ancrer profondément dans la parole de Dieu, dans la parole que Dieu a donnée. Cette parole, elle doit être aussi, c'est une parole spécifique. La parole que Dieu donne, elle est spécifique. On peut des fois nous avoir vécu quelque chose. On vit des choses, chacun. On a tous vécu, là, ce que j'ai dit tout à l'heure, on a eu des certitudes. Et ces certitudes, elles sont venues à cause d'une parole, une parole de Dieu qui a touché notre cœur. Mais des fois, on peut penser que la parole qui m'a touché à moi doit absolument toucher la personne qui est à côté. Donc du coup, je vais lui dire, ah non, mais tu vois, t'as vu, le Seigneur, il a dit ça. Hein. Oh, attention, le Seigneur a dit ça. Mais je crois que, non, Dieu est un Dieu attentionné et un Dieu de spécificité. Ça veut dire qu'il vient et il s'occupe de nous en particulier. Et la voix et la parole qu'il va donner va être spécifique à chacun d'entre nous. Et pour chacun d'entre nous, on va avoir cette bonne parole. La parole qui convient à notre cœur, à notre situation, à notre façon de réfléchir. Parce qu'on ne réfléchit pas tous pareil. Et c'est bien aussi, voilà, entre nous, de comprendre ça. C'est de dire, ben, tiens, mon frère, il n'a peut-être pas compris la même chose que moi. Par contre, on est tous arrivés au même point, à la certitude de l'amour de Dieu. Et cette foi spécifique, cette parole spécifique, pardon, il faut la chercher. Moi, je trouvais que Dieu, il aime le cache-cache. Je rigole, hein, mais à chaque fois quand on lit la Bible, Dieu se révèle à celui qui le cherche. Ça, et pourtant, il dit qu'il se révèle à tout homme. Même à ceux, quand il parle entre nous et les Juifs, par exemple, il dit, ben, je me suis révélé à des gens qui ne me cherchaient pas. Voilà. Mais là, il a proposé. Mais pour nous, qui sommes là, c'est bien d'aller chercher. On ne trouvera pas. Si vous ne cherchez pas, c'est que votre intérêt n'est pas réel. Si vous écoutez pas, alors il y a différents deux mots que j'aime bien, ces deux mots, c'est entendre et écouter. On peut entendre de la musique ou écouter de la musique. Entendre la musique, on l'entend, oui, quand vous passez dans le magasin, la petite musique qui va, tu vois, ou chez dans la gare, la petite musique, voilà, on entend une musique, on n'y prend pas attention. Par contre, si je veux écouter, je me pose, j'allume la radio ou je mets un CD, je me pose, j'écoute et j'essaie de comprendre tout ce qui se fait dans la musique, si c'est joli. Si, ah tiens, qu'est-ce que fait le violon? Qu'est-ce que fait le violoncelle? Qu'est-ce que fait la guitare? Voilà. Et c'est vraiment cette écoute. Et je crois que Dieu attend de nous qu'on cherche cette parole. Parce qu'on pourrait fonder notre foi sur toutes les paroles qu'on lit. Voilà. On lit, on lit, on lit, on lit. Allez. Et je suis dans telle difficulté, je trouve un truc, ah, je lis, je lis, je lis, je lis, je lis, et puis ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai lu, mais il n'y a rien qui est sorti. Moi, je crois que, voilà, la première chose, c'est de se poser et d'aller chercher dans la parole de Dieu, dans la relation qu'on a avec lui, dans les moments de prière, dans les moments de culte, cette parole spécifique. Donc il faut tendre l'oreille, il faut attendre, écouter. Et cette parole, elle vient nous toucher, et quand elle vient nous toucher, en général, c'est que l'Esprit de Dieu vient la prendre de tout ce qu'on avait déjà entendu ou lu. Ça vous fait pas à vous, à moi ça me fait ça, parce que je lis. J'apprends, j'essaie de comprendre les choses, mais des fois, il y a, voilà, ça amène pas spécialement de la foi profonde, enfin quelque chose qui va résoudre quelque chose hein, de suite. Mais je crois que tout ça s'emmagasine quelque part, d'accord? Et l'Esprit de Dieu vient nous rappeler la parole de Dieu au bon moment. Et cette parole vient toucher notre cœur. Et cette parole-là entraîne la foi. Cette parole-là entraîne notre certitude, notre conviction, on dit. Voilà. Et alors, en général, quand on a un problème, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça, hein, quand j'ai un problème et que je cherche une parole de Dieu pour m'appuyer, quand je la trouve, alors là, je ne la lâche plus. Je la tiens, je la tiens, je la tiens, je la tiens, je dis celle-là, je veux la vivre. Donc, première chose, donc, premier point, c'était que ma foi doit être ancrée dans la parole de Dieu, cette parole pour moi. Alors, autre point qui est par rapport à notre foi, moi j'ai noté là, je trouve ça bien, je m'auto, hein, congratule, hein, j'ai trouvé la foi. La foi, mais avec pas un grand F, mais la foi avec un grand O. Bon, pourquoi O? Pourquoi O? Alors, donc je ne pouvais pas parler de foi sans parler d'avoir ce verset. C'est dans Hébreux 11. Donc, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et dans ce chapitre 11, on raconte les différents personnages de la Bible qui ont marqué l'histoire avec leur foi. Mais dans ce texte, il y a un autre mot. Moi, j'aime bien couper des petits mots. Enfin, il y a des mots qui me font tilt. Et dans ce verset, c'est le fait que la foi est donc une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Donc c'est une démonstration de quelque chose qui n'existe pas encore, qu'on ne peut pas toucher de suite. Mais c'en est une, c'est une démonstration. Donc pour moi, la foi doit se voir. Elle doit être démontrée. Montrée, démontrée. Ah oui, le mot. Le fait d'être visible. Et on ne peut pas dire j'ai la foi seulement dans ma tête ou seulement dans mon cœur. C'est un premier pas. La certitude, elle est là. Elle n'est pas au bout des doigts, mais elle est dans mon cœur. La certitude, elle est là. Mais elle ne peut pas que rester là. Je crois que la foi implique une démonstration. Mais pas une démonstration seulement, parce que des fois on dit, ouais, c'est la démonstration, mais c'est Dieu qui démontre. Mais je crois pas. C'est notre foi qui démontre. C'est la foi, c'est la nôtre, c'est pas la foi de Dieu. Donc c'est la foi, c'est notre démonstration à nous. Donc c'est à nous de montrer notre foi, de démontrer notre foi. Et Jacques, vous savez, Jacques, il parle beaucoup de la foi, et Jacques, il parle de la foi par les actes. Lui, je sais pas, enfin, il y en a certains qui disent que dans leur texte, ils s'opposaient à certains pour dire qu'on ne pouvait pas avoir que la foi et il faut avoir la foi avec les actes. Donc c'était un petit peu. Il voulait surligner quelques points précis pour lui, en tout cas. Et si c'est relaté dans la Bible, je crois que les deux sont bons pour nous. Voilà. Et donc Jacques, il dit. Enfin, je résume. Hein. Il en est ainsi de la foi, s'il n'y a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, c'est bien d'être convaincu, c'est bien d'être sûr de ce qu'on croit, c'est bien d'avoir eu la parole, mais après, au bout d'un moment, il faut la démontrer. Parce que, comme il dit, si elle n'est pas démontrée, s'il n'y a pas l'acte au bout, elle est morte. Donc j'ai cru, mais j'ai cru peut-être pour rien. Et j'ai peut-être fait une foi, une imitation de la foi, ou du moins une imitation, un morceau. Il me faut la suite. Donc pour moi, la foi, d'après ce que j'ai lu, hein, voilà, vous me direz quand vous l'aurez lu aussi, vous, si vous dites la même chose que moi, mais la foi, c'est une obéissance. C'est pour ça le O de foi avec un grand O. C'est de l'obéissance. Quand vous regardez toutes les histoires de ces anciens qui ont marqué la Bible par leur foi, ils ont marqué la Bible par leur foi à cause de leur obéissance. Ils n'ont pas seulement fait quelque chose, parce que des gens qui ont fait des choses, ils sont dans les livres dans les bouquins de l'école, voyez, hein, de l'histoire. Mais eux ont obéi. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Cette parole que je vous disais tout à l'heure, quand on la cherche, on la trouve. D'accord? Mais cette parole, en général, cette parole, elle implique qu'on ait quelque chose à faire. Vous voyez, quand on parle souvent dans la Bible, il y a beaucoup de promesses, d'accord? Mais souvent, même très souvent, même à chaque fois, avec la promesse, il y a quelque chose qui est juste avant, ou des fois juste après. Parce que Dieu donne un commandement, Dieu donne un ordre. Il dit pardonnez-vous, par exemple. Dieu, il dit repentez-vous. Faites du bien à ceux qui vous entourent. Aimez votre prochain. Et là, je suis dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est pire parce que c'est, hein, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de promesses de Dieu. Et nous, des fois, on veut avoir la promesse, mais on veut avoir que la promesse. Nous, on veut croire, là, dans le cœur, et avoir la fin, direct. Je veux avoir le résultat de la promesse à la fin. Par contre, je crois qu'il y a un moment où on doit passer par l'obéissance. Et j'ai bien aimé, tout à l'heure, on parlait de la repentance. La repentance, c'est de l'obéissance. Dieu me propose sa grâce. Il me dit qu'à la fin, je vais être sauvé. Au milieu, j'ai la repentance. J'ai l'endroit où c'est à moi. C'est à moi de faire le pas. Dieu, il a fait le premier. Moi, je fais le deuxième. Lui, il fait le dernier. Et je crois que un exemple comme ça, c'est Abraham. Abraham, mais étonnant, parce que nous, facile. Nous, on a la Bible. C'est gros comme ça. Il y a plein de promesses partout. Il y a plein de descriptions de Dieu. C'est facile. Alors je me demande, enfin moi j'aimerais être avec Abraham à son époque et de dire tiens qu'est-ce qu'il connaissait de Dieu, qu'est-ce qui restait de Noé et de toutes ces histoires vraiment de quoi? Parce que s'il y avait rien, si c'était juste une histoire de Noé lointaine, enfin lointaine, hein, quelque chose qu'on raconte le soir autour du feu par exemple. Alors comment il a pu avoir cette naissance de la foi en lui? Et Dieu vient le voir, ça aussi il avait la chance lui, mais nous aussi. Et il lui dit, alors ça c'est dans Genèse au chapitre 12 et au verset 1. Je sais pas si... Donc Genèse. Chapitre 12, verset 1. C'est ça ou pas? Non, j'ai dû me tromper. C'est bizarre. C'est ça que t'as? Bon, on n'a pas la même Bible. C'est pas normal, ça. Bon, je vais lire, hein, on retrouvera plus tard ce que c'est. À quel endroit? Désolé. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans un pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Voilà. Donc j'essaierai de retrouver le texte plus tard. C'était ça? Ah. Je vois pas les mêmes choses, moi, en fait. D'accord. Ok. Bon. Bon. Je continue. Et donc là. J'imagine Abraham, il est là, et Dieu lui parle et il dit, allez, va, quitte ton pays. Voilà la parole de Dieu pour Abraham. Et il dit, va, mais il dit pas où, parce qu'il dit, vers un endroit que je t'indiquerai. Mais ben, c'est au futur, hein, indiquerai. Donc c'est plus tard. C'est qu'aujourd'hui, quand Dieu lui parle, au moment où il parle, ben, il sait pas. Il sait pas où il va aller. Et lui, on va voir, parce que là, c'était la promesse. Et dans Hébreux, au chapitre 11, on reparle de lui, et on explique ce qu'il a fait. Et donc, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est la confiance. Ça, c'est la confiance. Moi, je dis, voilà. Mais à cause de son obéissance à ce moment-là, regardez ce qui s'est passé. Regardez-vous, en fait. Regardez-vous. Vous êtes le résultat de la foi d'Abraham. Impressionnant, non? Je ne sais pas s'il avait réalisé ce que ça allait faire. son obéissance. Et il a obéi, il a eu foi en la parole de Dieu, il a eu confiance, et voilà le résultat. Mais pour lui aussi, hein, parce que quand on voit tout ce qu'il a vécu, et plus tard, quand Dieu lui demande, offre-moi ton seul fils. Hein, la promesse était un peuple, une grande nation. Et lui, il y va. Chaud, hein. Enfin, moi, non, voilà. Compliqué, quoi, pour de nos jours, à imaginer ça. Mais Abraham a obéi. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une parole spécifique. Si je lis ça, par exemple, va, ben, on part tous. Hein. Si c'est pas une parole spécifique, demain, je lis ce texte et je pars. On n'est pas tous appelés à partir. À Moïse, il lui a pas dit tue ton fils, par exemple. Hein? À Abraham, il n'a pas dit construis un bateau. Non, à chacun sa parole, à chacun la parole que Dieu veut bien mettre sur notre cœur et celle qui va engendrer chez nous une action. Donc c'est pas n'importe quelle action. On ne fait pas des actions, celle qui nous vient par la tête. Non, Dieu nous enseigne, elle nous montre ce que nous avons à faire. Et souvent, des fois c'est tout simple, hein, juste pardonne à ton prochain. Des fois ça te fait boum 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 comme ça dans le cœur, non, je sais pas pour vous, mais quand on a un problème avec quelqu'un, quand Dieu enfin, vous parle là-dessus, à l'intérieur, vous êtes sûr hein, que c'est ça, et que le seul moyen de sortir de ce mal-être et de ce que ça peut engendrer, c'est de pardonner. Il n'y a pas photo. Et je crois qu'à chaque fois, on arrive à des petits pas comme ça de foi qui nous font grandir. Alors, j'ai pensé à Ophélie quand j'ai écrit ça. J'ai voulu faire une équation. Épreuve de maths, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Hein, Ophélie, tu me diras si le résultat est correct. Non. La parole de Dieu. Pour moi, voilà, j'aurais bien voulu faire cette équation-là. Donc, on fait parole de Dieu plus, d'accord? Donc, c'est dans parole de Dieu, déjà, il y a une parenthèse, d'accord? Deux parenthèses de chaque côté. Il y a le commandement et la promesse, d'accord? Dieu, il vient, il donne le commandement et la promesse. Après, je fais un petit plus, et juste à côté, je mets moi, enfin, ou vous, hein, ma foi, ma conviction. La réalité de la promesse que Dieu a dit. Voilà. Je fais encore un petit plus. Et je mets mon obéissance. Mon obéissance au commandement du départ. Hein, d'accord? Okay. Et tout ça avec un égal à la fin. Action de Dieu. Réalisation de la promesse. Non. Donc ça, hein, vous pouvez vous l'écrire hein, pour les matheux. Pour les autres, tant pis, il faut aller à l'école. Non, je plaisante. En tout cas, ce qui est important, c'est que on a tendance, voilà, on a tendance à vouloir enlever des choses de cette équation. Et Ophélie va me dire ça, en général, si on enlève une info d'une équation, le résultat peut pas être le bon. Hein? Les élèves, souvent, ils oublient. Bon, j'ai tort. Ok, j'aurais pas dû parler d'Ophélie. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que on peut pas enlever un morceau de cette équation. Tout est important. La parole de Dieu est importante, ma foi est importante, mon action et mon obéissance est importante. Sans ça, ça se réalise pas. Par contre, bon, je l'ai pas noté, mais je vais le dire quand même. Il faut faire quand même attention, parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. D'accord? Donc lui peut pas changer. D'accord? Mais en général, avec la promesse et la bénédiction qui est donnée, souvent, quand on regarde dans les textes de l'Ancien Testament, c'est plus flagrant, pardon, on a toujours aussi le contrepartie de la désobéissance. La désobéissance, elle va entraîner quelque chose. Nous, on aime bien lire la promesse. celle qui est bien, et puis la bénédiction qui va avec. Dans la promesse, on prend une partie, parce que la promesse, elle est souvent composée de deux parties. Une partie bien, et l'autre partie, quand ça, si ça marche pas, quoi. Si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et le peuple a souvent de Dieu, a souvent subi le problème. Parce que ben, au début, ils étaient contents. Voilà, ouais, on a la foi, on a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Mais dès que Dieu leur demandait de faire quelque chose, bon non, on a un grand Dieu. On a un grand Dieu, non. C'est bien. Ouais. Sauf qu'ils ne voulaient pas obéir. Et celui qui n'obéit pas, ben, il subit ben, ce qui est dit. Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et il n'a pas dit que des bénédictions. Allez, point suivant. Désolé. Et je voulais aussi parler de ce point-là concernant la foi et notre obéissance. Il y a quelque chose qui se passe des fois, alors et qu'on peut reconnaître que notre foi est pas vraiment bonne. C'est quand on parle différemment que notre prière. Alors comment vous expliquer ça, plus simplement? Ça nous arrive à tous, on reçoit une parole, on y croit, parce que voilà, elle nous a touchés, on y croit, un peu, et je crois que c'est qu'un peu. Parce que quand on discute avec les gens, après, au moment de prière, vous voyez, quand vous êtes avec Dieu, là, vous dites à Dieu, ouais, tu m'as dit quelque chose, j'y crois. Et je me retrouve avec des personnes à côté de moi, plus tard, ou un autre jour. Et quand je parle avec eux, mon discours est défaitiste. Mon discours ne correspond pas à la foi que je dois avoir. Vous voyez? C'est comme, vous voyez, c'est, on voit pas le résultat. On dit pas le résultat. On dit pas comme si, vous voyez, parce que normalement c'est une démonstration de celle que l'on ne voit pas. En dehors de l'acte, d'accord, d'obéir. Par les actes, hein, pour faire quelque chose, mais aussi obéir par mon discours. Dans ce que je dis, ça a une importance. Quand je parle aux gens, donc si je commence à dire des choses qui sont, enfin, qui sont pas en corrélation avec la foi que je dois avoir, c'est que, ouais, c'est pas vraiment la foi que j'ai là. Donc c'est bien d'aller repartir avec dans l'autre sens et de revenir avec Dieu et dire, voilà, je veux, enfin, je veux être rassuré, je veux être assuré de ce que tu m'as dit et que ma bouche proclame. Et je crois que c'est vraiment là la bonne proclamation. Proclamation, c'est pas de dire youpi, je dis des choses bien et ça va arriver. Hein, je m'auto-persuade. C'est pas ça que je vous dis, hein, il faut pas, surtout pas. Le but, c'est que la foi réelle déborde. Donc, ce qu'on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est important. Si mon discours est différent, c'est que voilà, soit je n'ai pas sans doute la bonne parole. Pour cette situation, j'ai pas la bonne parole. Donc j'ai pas la bonne parole, donc j'arrive pas à obéir. Et donc voilà. Des fois je me trompe. Des fois on veut croire quelque chose qui n'est pas que Dieu nous a pas demandé de croire en fait. Hein, dire, parce que comme je vous dis, on n'a pas dit à tout le monde d'aller construire un bateau. Donc il y a des choses qu'on doit apprendre. Et un autre texte, et après je ça va être pas très très long. Il dit aussi que le juste vivra par la foi. Et on peut le lire dans de deux manières. C'est-à-dire que le juste obtient la vie par la foi. Hein, c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre. D'accord? Mais je crois aussi que ce texte veut dire la vie du juste sera plein d'actes de foi. C'est-à-dire que on n'est pas là, c'est pas que parce qu'on croit en Jésus qu'on a la vie, ça c'est la première partie, c'est vrai. Mais aussi, ma vie, elle va être remplie de foi. Si, et d'actes de foi, et de petits pas de foi. Donc tous les jours, en fait, c'est quand je vous dis la vie, c'est parce que la vie de tous les jours, C'est que pas après pas, Dieu nous appelle à croire, à avoir la foi en lui. Il n'est pas... comment vous expliquer? La foi, la vie de foi, donc pratiquer, donc recevoir la parole, obéir et laisser Dieu agir, ça c'est quelque chose qui doit être tous les jours. On essaie, comme disait Manu, souvent de contrôler beaucoup de choses. On essaie de contrôler, on essaie de faire, on essaie d'agir nous-mêmes. Mais moi, je crois qu'on est surtout appelé à vivre par la foi. Donc à aller chercher dans la Bible la parole qui correspond à ma situation et qui va me permettre à la fin d'arriver à ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, parce que je me suis dit, ouais, c'est pas voilà, la vie, la foi, mais pourquoi? Pourquoi la foi? Et Dieu dit qu'il a préparé de bonnes œuvres afin que nous les accomplissions. Donc ça veut dire que dans tout ça, dans tout ce qu'on fait, dans notre vie de tous les jours, et je parle même des difficultés, des problèmes qu'on peut avoir, nous chrétiens, on pourrait aussi le vivre comme une difficulté inhérente à l'homme de à l'homme. L'homme doit vivre et puis avoir des difficultés, et puis bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais moi, je crois que à tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu, Dieu est sous le contrôle. Dieu est celui qui permet les moments, les situations, et tout ça, à la fin, c'est pour qu'on le connaisse mieux. Moi, je crois que Abraham, après avoir obéi, il a connu Dieu d'une autre manière. Quand il a mis sa foi en action, à la fin, il a pu dire, ouais, Dieu pourvoit. Si on, il n'avait pas vécu ça, s'il n'avait pas mis son action, s'il n'avait pas eu la difficulté, si Dieu lui avait pas demandé de donner son fils, voilà, il l'aurait pas su. Et je crois que nous, à notre vision de notre vie, une fois qu'on a donné sa vie à Dieu, il y a des difficultés, des problèmes, des choses, des contrariétés, des choses qui nous arrivent. Et tous, moi le premier, je les évite, hein. Je veux esquiver tout problème. Enfin, voilà, soyons en paix. Ça, je connais. Hein, soyons en paix. Ça, je sais faire. Mais par contre, des fois, il y a des difficultés qui sont au-delà de notre capacité, des choses qui nous tombent dessus. Et on pourrait croire que Dieu ne maîtrise pas. Et puis que, en fait, et nous, on crie, on arrive, on crie, et on dit, oh, je coule, je coule, je coule. Et comme si Dieu n'avait pas prévu, comme si Dieu n'avait pas voulu ou laissé faire. Moi, je crois que Dieu laisse faire des choses pour qu'à un moment donné, à un moment donné, notre foi soit mise en marche et qu'à la fin de cette foi, une fois l'obéissance faite et sa promesse réalisée, nous, on puisse le louer. Que notre bouche puisse proclamer des louanges de ce qu'il est. Combien Dieu est grand. Quand on dit ça, là, combien Dieu est grand. Voilà. Tout le monde peut dire combien Dieu est grand. Voilà. Mais par contre, quand on vient de vivre quelque chose de bien compliqué et qu'à la fin, Dieu a agi, et qu'on est là et qu'on dit combien Dieu est grand, ça a de la valeur. Par contre, si vous l'avez jamais eu la difficulté, Dieu est grand, ouais, c'est une idée, c'est une théorie, mais je l'ai pas vécu. Et c'est pour ça des fois quand Paul il dit réjouissez-vous de tout ce qui vous arrive, soyez toujours dans la joie. Nous, on dit mais non, c'est pas possible, c'est pas, ah, c'est compliqué quand même d'être tout le temps dans la joie. Mais c'est si on définit ça. Pendant le moment, ça va être difficile, hein. Y aura pas, on n'est pas des surhommes, hein. Mais par contre, dans la souffrance, à la fin, Dieu veut pas nous faire souffrir pour souffrir, mais pour être victorieux. Et je crois que notre Dieu a tout le contrôle, tient tout entre ses mains. Et j'aimerais que juste finir une dernière chose, c'est un autre dernier texte qui parle aussi de la foi et qui dit que Jésus est, donc c'est, j'ai juste pris le morceau qui m'intéressait, vous lirez le reste, c'est aussi intéressant, mais c'est étonnant parce que je trouvais que ça n'avait rien à faire spécialement là, mais c'était là. Donc Jésus est décrit comme le chef et le consommateur de la foi. Et hein, je dis, mais c'est bizarre ça, enfin, consommateur, alors je suis allé dans le dictionnaire, j'ai cherché consommateur, ça parlait d'économie, c'était un peu compliqué, mais nous si on dit on est consommateur, un consommateur c'est celui qui l'utilise, c'est lui qui la met, enfin, qui l'a entre les mains et qui l'utilise, c'est pour lui que c'est fait, un produit est fait pour un consommateur, donc le produit est destiné au consommateur. Et nous, notre foi, elle est faite pour Jésus. On n'a pas à... au final, notre foi ne sert qu'à élever Jésus. Jésus, il attend notre foi. C'est comme si c'était quelque chose qu'il avait besoin. Vous voyez, enfin, c'est compliqué, je ne peux pas dire qu'il mange dans notre foi, mais c'est à peu près ça. C'est qu'il en a besoin. De votre foi. C'est comme ça qu'il se révèle à nous. C'est comme ça que Dieu se révèle. Et comment Dieu montre sa grandeur, c'est à travers de la foi, mais en Jésus. C'est Jésus le centre de tout ça. Donc, je reviens donc, au tout début. Donc, notre foi, si on ne veut pas se tromper, première chose, allez l'ancrer. Ancrer votre foi dans la parole. La deuxième, c'est la démontrer, obéir. Et la troisième, rester vraiment dirigé vers Jésus. Non pas ce que je désire, parce que des fois, nous, la foi, c'est pour obtenir ce que j'attends. Je veux à la foi, mais l'intéressant, c'est la promesse, en fait. Nous, quand on réfléchit, oui, on dit je vais obéir. Voilà, j'ai une parole, je vais obéir. À la fin, je vais avoir la promesse, je vais avoir la bénédiction. Mais je crois que c'est là où ça change quand on dit que c'est Jésus qui est le consommateur de la foi. C'est que cette foi, elle est pour lui. À la fin, c'est pas pour nous, c'est pour Jésus. Et notre foi doit nous emmener à être en relation avec Dieu, être avec Jésus, et pas le reste. La bénédiction est en fait un résultat inhérent du fait qu'on soit vraiment avec Jésus. Et c'est là notre recherche. Donc si vous voulez augmenter votre foi, si vous voulez que votre foi soit vraie, pardon, plutôt, ben c'est qu'elle soit dirigée vers Jésus. Que le but final, c'est que ma foi m'amène à connaître Jésus encore plus. Voilà. Je voudrais vous inviter à, peut-être, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à la foi. Si peut-être vous êtes au tout début, vous n'avez jamais entendu la parole qui touche le cœur, peut-être. Ou peut-être vous avez déjà le cœur, mais vous êtes sur la position où vous devez obéir. Et peut-être que vous avez déjà obéi, et que vous avez déjà bénéficié des bénédictions. Mais à chaque étape, à chaque point là, vous avez un pas encore à faire. Ça veut dire le final, arriver à aimer Jésus encore plus. Seigneur, nous voulons te remercier. Remercier parce que la Bible nous enseigne des choses bonnes. Tu nous donnes plein de promesses, plein de commandements. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que notre foi soit réelle. Nous ne voulons pas nous tromper. Nous ne voulons pas rester, Seigneur Jésus, te décevoir. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment que notre foi atteigne son but, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment que à chaque endroit que nous sommes, à chaque point où nous sommes, à chaque marche où nous sommes, Seigneur, de faire encore un pas de plus avec toi. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Tu es celui que nous aimons, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Jésus, appliquer notre cœur à faire ce que tu nous demandes. Seigneur Jésus, tu es tout pour nous. Bénis chacun de mes frères, Seigneur Jésus, et que dans tout ce que on a pu partager, Seigneur Jésus, Oh Seigneur Jésus, que tu donnes la parole qui touche les cœurs et qui reste accrochée là au fond du cœur, qui servira à chaque moment. Oui Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te dire merci pour ton amour. Oh Seigneur Jésus, ton plan pour notre vie est tellement beau. Tout ce que tu as fait est tellement beau pour nous, Seigneur Jésus. Et dans tout cela, nous voyons que tu nous aimes par-dessus tout et que tu veux la relation avec nous, Seigneur. Mon Dieu, sois loué, sois adoré. Oh, sois glorifié par chacun de nos cœurs, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.